Alors, je vais rappeler les faits. Mardi dernier, vous rencontrez une jeune étudiante avec qui vous parliez sur Instagram, c'est ça?
Qui m'avait écrit sur Instagram, oui.
D'accord. Après avoir passé la journée avec elle, vous l'invitez ou elle vous invite?
Donc, on se voit toute l'après-midi de 16h jusqu'au couvre-feu. Je la raccompagne pour qu'elle puisse rentrer chez elle. Je rentre chez moi. Je lui réécris en lui disant que si elle veut passer prendre un verre sur les quais en bas de chez moi, elle peut venir. Elle me dit qu'elle vient. On passe la soirée ensemble. Et on voit un film vers minuit, un deuxième film. Et à un moment donné, on couche ensemble. Et on dort ensemble.
Donc vous avez une relation consentue,
très tendre. Le lendemain matin, au moment de partir, elle m'embrasse d'abord sur le visage, puis sur les lèvres. Elle part. Elle me réécrit pour me dire qu'elle a oublié ses lunettes, si elle peut passer dans la semaine. Elle passe dans la semaine, 2 jours plus tard, donc jeudi dernier. Elle me dit... je lui donne les lunettes. Elle me dit... voilà, je trouve que ça allait un peu trop vite, je ne sais pas ce qui s'est passé, tu trouves pas, commence à me parler. Et à un moment donné, au bout d'un quart d'heure de discussion, elle me dit, il faut que je dise quelque chose, je ne suis pas sûr que j'ai fait la bonne chose à faire, mais j'ai parlé avec des amis qui m'ont dit qu'il fallait que j'aille à la police. Et donc j'ai déposé une main courante à la police. Moi, j'étais avant tout très blessé humainement, en fait, par rapport à ce qu'on avait vécu. Et par rapport à ce qui était très explicite.
Comment elle vous annonce
très explicite.
Comment ça vous dit, j'ai parlé avec des amis?
C'était difficile pour elle de me le dire, en fait. C'était assez confus. Elle m'interrogeait sur la soirée, elle me disait ce qu'on avait pensé, etc. Je rappelais qu'à tout moment, on a été en dialogue, en discussion, qu'on s'est demandé si on voulait coucher ensemble ou pas, qu'on s'est embrassé, que j'ai d'abord demandé si elle pouvait me passer sa main. Elle me l'a donné, qu'elle m'a dit qu'elle aimait bien le massage que je lui faisais. Enfin, c'est un peu dégoûtant pour moi de vous décrire tout ça aujourd'hui, c'est assez, assez prostituant, mais je pense que c'est important de le faire parce que ce qui est important, c'est pas l'interaction humaine qui pour moi est très claire, qui s'ouvre pas de doute. Et vous savez, il y a des rapports qui parfois sont pas explicitement consentis. Là, il y avait un élément physique un peu, je sais pas si je devrais en parler, mais elle avait ses règles, donc on savait pas s'il fallait... Si on en avait envie, en fait, c'est tout simplement. Et donc, on en a parlé. On a parlé pendant et même juste avant. Et à un moment, on s'est dit oui et on l'a fait. Et pendant qu'on le faisait, voilà, enfin, tant qu'à faire, parce que c'est tant qu'à aller jusqu'au bout dans l'humiliation, on s'est demandé si ça nous plaisait mutuellement. On s'est répondu. Et donc voilà, donc la blessure humaine, immédiatement, quand elle me dit ça, on parle. Je lui dis, mais pourquoi? Comment, etc. Elle me dit, mais j'ai parlé avec des amis, je me sentais mal, j'étais chez moi seul, etc. Elle me demande pardon. Je comprends qu'elle avait eu deux histoires d'amour avant moi, donc que c'était quelque chose pour elle qui n'était pas forcément innocent de coucher avec un garçon, comme ça, qu'il y avait potentiellement des enjeux. Je m'excuse de ne pas avoir pris en compte cet élément. Elle me demande pardon, elle me dit qu'elle va retirer la main courante. Je lui dis, mais vous savez, c'est moi, en fait. Je pense que vous ne vous rendez pas compte que c'est moi et que nécessairement... Et le lendemain matin, un journaliste du Parisien m'appelle, me dit, vous savez, tout le monde est au courant, donc autant que ce soit nous qui le sortions, une enquête pénale a été ouverte contre vous pour viol.
Alors, sa version, la version de la plaignante...
Et après, partout dans la presse.
Elle convient d'un rendez-vous entre vous. Vous lui avez suggéré de regarder un film, comme vous le dites, dans sa chambre. La jeune femme a également évoqué le fait qu'il y ait eu consommation de drogue à votre domicile. Il m'a proposé de la lamaline, un opiacé. Vers minuit, nous en avons pris.
Vous savez ce que c'est de la lamaline?
Je ne sais pas du tout. C'est quoi?
C'est un codoliprane.
Oui.
D'accord, moi je ne connais pas du tout.
C'est un cachet de lamaline, c'est équivalent de 2 codoliprane.
Mais
ça cogne un peu quand même.
Quoi? Oui. Benjamin Castagne.
Moi j'en ai pris quand j'ai eu mon accident de moto, c'est un vrai médicament, c'est pas innocent.
Moi j'en ai parce que je me suis coupé le doigt et on m'a prescrit d'en prendre 10 par jour.
C'est un antidouleur.
Et on en a pris.
Mais pourquoi
on a pris 1,5 ensemble parce que.
C'est quoi le délire en fait? Ça fait quoi?
Parce qu'on est des enfants en fait et parce qu'on avait parlé toute l'après-midi sur Jardin Luxembourg, etc. On avait parlé de. Est-ce qu'on avait déjà pris des drogues? Est-ce qu'on buvait? Et tous les deux, on était un peu innocents, en mode, bah non, pas trop. Enfin, elle me dit, j'ai fait du ballon une fois. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Elle m'explique. Moi, je lui dis, j'ai pris des champignons hallucinogènes une fois, voilà. Et en fait, dans le jeu érotique, je comprends même pas pourquoi ça devient un sujet de discussion. Je trouve ça assez violent. Et donc, à un moment donné, on n'a rien. On n'a jamais acheté de drogue, ni elle, ni moi. On n'a pas envie d'en acheter. On n'a pas envie de participer à ça. Moi, j'ai jamais touché à aucune drogue dure ou à la cocaïne, etc. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous êtes engagé politiquement et que quand vous êtes en confrontation directe avec le pouvoir, en fait, vous devenez une cible de façon soit explicite et volontaire, instrumentale, soit involontaire. Et donc, tous les journaux reprennent ça pour en fait, me faire passer et nous faire passer pour un drogué, un dépravé, etc.
On va revenir sur l'affaire, mais il y a un truc qui est incroyable. Et à chaque fois que je parle de vous, moi, on me dit il est très sympa, Juan Branco, c'est un mec brillant, mais il a une obsession. C'est Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement avec qui vous étiez à l'école, et Xavier Niel. Je sais que vous avez écrit aussi un livre, mais surtout Gabriel Attal, avec qui vous étiez à l'école, non, il paraît que vous avez fait une fixation sur lui, vous faites une fixette sur lui.
Moi, je suis venu ici pour vous dire une chose. Quand j'avais 26 ans, j'avais été invité, 27 ans, c'était un mois avant les Gilets jaunes, j'avais été invité par Bernard Arnault, Xavier Niel et compagnie, à l'inauguration de la boutique Louis Vuitton, Place Vendôme.
D'accord.
Donc j'étais allé... avec une personne, je me suis retrouvé au dîner là-bas avec plein de très belles actrices, mannequins, plein de gens très riches, très intéressants, etc. Il m'avait mis à la place avec une table où il y a donc au Ritz avec des serveurs en livrée, avec des vins extrêmement chers, etc. Avec 8 directeurs de rédaction et très sympathique, etc. Mais jusqu'au milieu du dîner, je demande un peu comme ça, mais comment ça se fait que vous êtes là en fait? Pourquoi Bernard Arnault, Xavier, Delphine Arnault, tout ça, invite des journalistes et pourquoi vous acceptez d'être invité à un événement commercial et vous êtes là comme si de rien n'était dans ce petit entre-soi? Donc je demande juste, mais en fait, qu'est-ce que vous faites là? Ça, très, sans arrière-pensée encore, sans avoir. Et ils me répondent pas en fait. Et il y a un silence qui se fait gêné dans la table, alors que ça se passait bien jusqu'alors. Constance Benquet, qui est aujourd'hui la directrice de Troupeau, Lagardère Média, et ainsi de suite. Elle était à côté de moi, elle rigole, et à l'époque, elle dirigeait elle, nanana. Sauf que là, je sens une gêne importante, et en fait, là, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui se passe en France qui n'est pas du tout normal, qui est en fait l'emprise qu'un certain nombre d'oligarques, de personnes, ont sur les médias. Donc ici, on est chez Bolloré, quand vous allez dans TF1, TMC...
Non, mais juste, on est chez Bolloré, vous voyez bien qu'on vous invite ce soir, donc...
Moi, j'ai jamais attaqué Bolloré, ça, c'est une chose, et d'autre part, je pense que, vu la façon dont j'étais reçu les fois d'avant, vous savez, je trouve que c'est plutôt une preuve de courage de ma part d'être ici qu'autre chose.
Non, mais vous avez été mal reçu les fois d'avant, parce que vous m'aviez attaqué également sur...
Sur le rapport avec Bolloré.
Voilà, ça, sur mon contrat.
Ouais.
Voilà,
et vous avez failli me verrer du plateau.
Oui, vous aviez donné des faux chiffres.
Voilà. Non, j'ai donné les chiffres du contrat, pas vos chiffres de salaire.
On va pas revenir là-dessus, mais vous avez dit que c'était mon salaire.
C'est un point sensible.
C'est pour ça qu'on s'était un peu accroché, mais on aurait pu très bien vous dire.
Donc ce que je veux dire par là, c'est que dès le moment, j'étais jusqu'alors très protégé, très intégré, et ainsi de suite. Et à partir du moment où j'ai commencé à me détacher, à poser ces questions, à dire c'est pas normal qu'il y ait ces liens incestueux, parce que du coup, c'est-à-dire que le reste des Français voit la réalité à travers un voile. Parce qu'en fait, il y a un petit entre-soi qui fabrique l'information et il y a le reste. Des Français qui ne sont pas au courant de ces liens, de qui est propriétaire de quoi, de qui dîne avec qui, etc.
Et l'effet que ça produit. Vous êtes une victime,
Non, c'est l'inverse. À partir de là, j'ai commencé à me mettre en branle et en lutte. J'ai créé un livre qui n'a eu aucun média, comme vous le rappelez, qui s'est très très bien vendu, Crépuscule, qui justement dénonçait ce système. Je me suis engagé auprès des Gilets jaunes, j'ai commencé à me battre à leur côté. Et évidemment, la perception, en ce qui me concerne, a commencé à s'enverser. Et évidemment, la moindre chose qui pouvait être instrumentalisée contre moi, a commencé à être utilisé. Je connais pas beaucoup d'avocats en France, parce qu'à partir de là, en fait, ce qui s'est construit, ça a été une vraie lutte avec le régime actuel. Je connais pas beaucoup d'avocats en France qui aient gagné un procès contre Emmanuel et Brigitte Macron, qui, je le rappelle, pardonnez-moi, je finis là-dessus, vraiment, je vous promets, avait poursuivi, et ça, personne ne sait pourquoi l'AFP était présente, mais n'a pas fait dépêche, un SDF, parce qu'il avait barboté avec un homard géant face au fort de Brégançon, pour se foutre de leur gueule. Et ils ont fait des poursuites pénales qui ont fait des procédures pour viol, pour violence conjugale ont été décalées pour traiter cette
Juan
affaire.
Pourquoi
est-ce que je raconte ça?
Il vient pour parler d'une jeune fille et parle de Macron,
Il y a une machination, contre vous. Alors, Valérie,
justement, j'aimerais comprendre pourquoi ces digressions-là, qui semblent être pour vous une sorte de justification de l'affaire en question.
Il n'y a pas d'affaire.
Si vous étiez en train de nous expliquer, en gros, il y a une cabale contre moi et cette jeune fille, finalement, peut-être est instrumentalisée.
Non, jamais. Moi, je ne dirais jamais un mot. Je dirais jamais un mot sur cette jeune fille de négatif, parce que ce que j'ai passé avec elle de bout en bout a été une expérience humainement très intense, qui compris lorsqu'elle est revenue voir moi pour me dire ce qu'elle m'avait dit, j'ai pas du tout pensé aux conséquences en termes d'image publique, de par rapport à la police, tout ça. J'étais dans un rapport de ressenti de violence très fort par rapport à ce que je trouvais être une trahison de l'intimité. Et l'explication qu'elle m'a donnée à l'époque et le mouvement qu'elle a fait où elle m'annonçait qu'elle retirait la main courante, etc. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ce que j'explique, c'est comment ça se fait que de là, ça devient un sujet national, que tous les médias en boucle commencent à parler, à raconter quelque chose sur la base de rien, et essayent de... Et là, je fais le lien, en effet, avec tout ce que j'ai raconté jusqu'ici. C'est que jamais je n'essaierai de justifier un comportement ou quelque chose qui puisse atteindre aux intérêts d'une personne plus fragile que moi ou une femme en général.
C'est pas forcément sur la base de rien, parce qu'il y a une plaignante qui avait fait qui dit quand même que la lamaline a été absorbée. La lamaline, il faut savoir que c'est quelque chose qui peut. Ça contient de l'opium, de la caféine ou du paracétamol. Non, mais c'est juste pour dire. C'est quelque chose quand on l'absorbe, ça peut rendre soit dépendant ou soit euphorique. Donc c'est pas innocent.
Non, pas euphorique. Les effets secondaires, c'est la somnolence. Oui. C'est pas l'euphorie.
C'est quelque chose qui n'est pas innocent.
Et la constipation.
Non, mais c'est pas innocent forcément.
Et la constipation.
Ça peut être que quelqu'un devient vulnérable. C'est pour ça que je le signalais simplement.
Elle l'a dit elle-même. Elle n'a pas ressenti d'effet.
D'accord.
Et elle l'a dit elle-même. Vous ne pouvez pas ressentir d'effet quand vous prenez un cachet de codoliprane.
J'ai pas compris ce délire.
C'est quand même incroyable.
Voilà. Je voulais vous demander. J'ai pas compris le délire. Je voulais vous demander quand.
Peut-être parce qu'ici on prend des rails de coke sans difficulté. Moi, j'en ai jamais touché. Moi, je touche jamais aux drogues dures.
Ça c'est pas bien.
Attendez, il y a un moment où il faut arrêter. Vous êtes en train de jouer avec mon intimité, vous ne comprenez pas quoi.
De qui vous parlez? Vous allez encore...
Du milieu de la télévision. Du milieu de la télévision.
Non, mais tu parles de moi.
Mais pourquoi vous semblez visé?
Non, mais pourquoi tu parles comme ça, de rails de coke?
Mais pourquoi vous sentez visé?
Jamais personne n'a pris de la coke.
Ah bon? Personne ne prend des drogues dures dans le monde de la télévision?
Chez nous, non.
Mais bien sûr,
chez nous, non. Parce que la dernière fois, je vais dire
pourquoi est-ce que je parle de ça.
Non, mais là, pourquoi est-ce qu'il prend des rails de coke?
Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que qu'est-ce qu'on essaye d'insinuer?
Que vous veniez à chaque fois. Vous êtes sur le banc des accusés et vous accusez les autres.
Je suis sur le banc des accusés.
Bah oui, vous êtes sur le banc des accusés.
Il y a quand même une plainte.
Je suis sur le banc des accusés. C'est un tribunal ici.
Il y a une plainte contre vous qui a porté plainte.
Non, il n'y a pas de plainte, madame. Monsieur, il y a une main courante.
C'est la lamaline.
C'est la lamaline.
Regardez aujourd'hui, c'est.
Pourquoi est-ce que j'ai parlé de la question des drogues? C'est très important. Pourquoi est-ce que j'en ai parlé?
Arrêtez.
Est-ce que je peux dire un mot?
Moi, je n'ai même pas fumé un joint. Je vous demande, c'est quoi ce délire de la maline?
Qu'est-ce qu'on essaye d'insinuer à travers ça? C'est que j'ai drogué une jeune femme pour coucher avec elle.
C'est sûr que c'est ça.
On vous demande, c'est normal de vous demander, monsieur.
Et donc moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'on parle d'un codoliprane, qu'on parle de quelque chose qu'on a fait ensemble après en avoir longuement parlé, que ni elle...
C'est pas un doliprane. Deux
codoliprane, c'est l'équivalent en termes de dose.
Non, attends, il y a une dépendance à l'opiacé. Non,
j'ai calculé un codoliprane en termes de dose.
Je ne donne pas de la maline à n'importe qui.
2%, 2%.
Il y a des jeunes qui nous regardent, attention.
Bien sûr qu'il y a des jeunes qui nous regardent.
C'est normal de vous poser la question, monsieur. Monsieur, c'est normal qu'on vous pose des questions.
Oui, Géraldine.
C'est normal que je réponde, non?
Je vais faire un pas vers vous, parce que je pense qu'effectivement, on est dans une époque où le regret du lendemain, aujourd'hui, pourrait devenir un viol, et ça devient très dangereux. En revanche, quand même, je veux dire aussi que quand on est une jeune fille, on a le droit de ne pas monter dans l'appartement de quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît depuis peu, qu'on n'est pas obligé de prendre de la lamaline quand quelqu'un vous en donne, on n'est pas obligé de coucher avec quelqu'un qui a pris de la lamaline sous prétexte qu'on peut aussi dire non. Donc effectivement, cette jeune fille, visiblement, elle n'a pas dit non, elle a dit oui.
C'est pas une jeune fille. Elle a 20 ans.
C'est une jeune femme. Ma fille a 17 ans. Pour moi, c'est une jeune femme.
Oui, une jeune femme.
Deuxième chose, est-ce que vous n'avez pas l'impression, malgré tout, d'être l'arroseur arrosé, rapport à Pavlinsky, puisque malgré tout, vous êtes finalement le nouveau griot de cette affaire? Puisque vous avez finalement, vous avez carrément montré la nudité de Griveaux, vous avez dit que c'était immonde, c'était dégueulasse, et finalement vous reprenez boomerang.
Attendez, moi j'ai défendu une personne.
Non, vous avez dit, menace de montrer le candidat Griveaux nu dans sa laideur. Je demande une expertise psychiatrique de M. Griveaux pour examiner la nature de ses pathologies. Est-ce qu'on pourrait pas dire la même chose
de vous? Attendez, on va un peu mettre les choses à plat, tranquillement. Deux choses. Moi je suis avocat, d'accord?
Absolument.
j'ai écrit un livre, donc Crépuscule, dans lequel je raconte comment ces personnes, comment sont arrivées au pouvoir. Mmh. Et donc je parle notamment de Benjamin Griveaux, de quel a été son parcours et ainsi de suite. Mmh. Je parle aussi de Gabriel Attal, pas parce que j'ai un quelconque intérêt pour Gabriel ou une quelconque haine vis-à-vis de Gabriel.
Vous êtes à l'école ensemble, vous le détestez depuis l'école.
Mais non, ça c'est ce que encore une fois, c'est ce que racontent les médias pour essayer de créer une image. J'ai aucune difficulté ou appréciation particulière pour Gabriel Attal. D'ailleurs, j'ai dû enquêter sur lui, comme sur Benjamin Griveaux, comme sur Emmanuel Macron, pour comprendre ce qu'avait été sa vie. Je n'étais pas au courant de ce qu'il était devenu depuis cette période-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'étais l'avocat de cette personne. D'accord ? On a essayé de créer une confusion. Le même journaliste qui, aujourd'hui, a essayé de sortir la lamaline pour me transformer en drogueur, violeur, etc., quelqu'un qui s'appelle Aziz Emouri, avait été à l'origine, à l'époque, des rumeurs comme quoi j'avais participé à l'acte et avait essayé, en effet, de coincer Benjamin Griveaux, etc. Je l'ai dit très clairement, je n'ai pas participé à cet acte. Piotr Pawlenski est venu vers moi parce que je suis reconnu comme étant en lutte contre la Macronie. Il s'est dit que je serais un bon avocat. Et j'ai réussi à lui éviter le passage par la case prison qui aurait été délétère à la veille d'un confinement. Et j'ai fait mon travail, je l'ai fait gratuitement et je l'ai fait avec honneur et probité. Ça, c'est très important pour moi que je le rappelle. Donc ça n'a rien à voir. C'est deux choses qui n'ont rien à voir.
J'ai une dernière question. Qu'est-ce qui va se passer maintenant alors ?
Voilà.
Ben alors, ça, c'est aussi ce qui est intéressant. Après l'instrumentalisation médiatique, vient l'instrumentalisation judiciaire et policière.
C'est-à-dire
ils n'ont pas commencé l'enquête. Les fuites viennent du parquet. Du parquet et de la police.
C'est toujours comme ça.
En quoi c'est normal qu'il y ait une fuite à la presse ?
Je sais, mais ça ne vous concerne pas.
Donc, ça, c'est la première étape.
C'est pas la première
fois. Oui, c'est vrai. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à moi ? Donc, première phase, la fuite vient du parquet. Pourtant, le parquet s'y empressait à l'idée de faire savoir cette histoire, de faire savoir les détails et d'essayer de trouver dans la déclaration de la main courante où il n'y a rien à part le fait qu'on ait pris de la lamaline à un moment, ce qu'elle a dû décrire en fait en disant juste qu'est-ce qui s'est passé au cours de la soirée en répondant aux questions des policiers. On sort ça pour essayer d'en faire déjà un procès à charge. Pourquoi ? Parce qu'ils voient que la première réaction des gens, c'était de dire « mais c'est quoi cette histoire ?» Pourquoi est-ce que tout d'un coup on sort ?
Vous avez des contacts avec la jeune fille encore ?
Mais non, elle m'a écrit pour me dire qu'elle confirmait qu'elle voulait retirer la main courante, etc. Et je ne vais pas être en interaction avec elle. Je n'ai pas envie d'être dans un rapport de pression, d'inquiétude, etc. Quand elle part le vendredi soir, après être revenue me voir, elle me dit « Est-ce que vous pensez qu'on pourra rester en contact malgré cette histoire ?» Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que, je suis pas dans l'esprit de cette personne-là. Je n'ai pas envie qu'il lui arrive quoi que ce soit à cause de cette affaire. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que le parquet est très diligent pour faire fuiter les éléments qui leur intéressent, mais ils ne font aucun acte d'enquête.
C'est une cabale contre vous ? C'est une machination ?
Je veux juste que les Français se rendent compte de comment se fabrique l'information dans ce pays. Et qu'est-ce qui sort et qu'est-ce qui ne sort pas. Et j'écris sur ce sujet longuement, et je pense que ça sert d'exemple pour comprendre que parfois, tout d'un coup, on a intérêt à faire monter des affaires.
Aujourd'hui, le procureur de Paris a ouvert une enquête pour viol.
Ils n'ont fait aucun acte d'enquête. Ils s'en fichent complètement. Attendez, vous faites fuiter dans la presse immédiatement. Vous allez tout de suite interroger les personnes. Ils n'ont pas fait d'analyse toxicologique. Ils n'ont rien fait. Et en fait, ils vont évidemment laisser durer pendant des mois pour laisser une sorte de doute ou d'impression que quelqu'un qui, en effet, est en opposition directe avec le pouvoir politique actuel, serait éventuellement... Il ne faut pas prétendre que ça n'existe pas. Je ne l'utiliserai jamais pour me défausser d'une quelconque responsabilité. Au contraire, je n'attendais qu'une chose, c'est que ça aille vite et que je puisse m'expliquer, qu'il y ait une confrontation, etc. Je l'ai dit tout de suite, même pas publiquement, parce que je n'ai pas envie d'instrumentaliser cette affaire. Ça n'est pas arrivé.
Quel est votre dernier mot ?
Rien d'autre que les gens comprennent que ce qu'ils reçoivent du fonctionnement politique de ce pays n'est pas la façon dont se fabriquent réellement les institutions.
Et vous aussi, la prochaine fois quand vous venez sur un plateau, la première fois, vous dites que je gagne 250 millions d'euros.
Non, j'ai dit que vous aviez un contrat de 250 millions d'euros avec votre entreprise de production.
Vous dites qu'il y a de la cocaïne à la télévision.
Oh non, c'est vrai qu'il n'y en a pas.
Ici, je défie quelqu'un à en avoir vu ou d'en avoir. Voilà.
Dites pas les choses comme ça.
Ici, il n'y a que des topomères avec des boulettes.
Voilà. Non. Faire un test.
Si vous voulez, et je vous lis, ça vous ferait du bien aussi de côtoyer des gens comme ça. Vous pouvez faire une enquête sur chacun d'entre eux, même sur moi. Vous verrez. C'est pour vous dire que tout le monde est clean. En tout cas,
mon monde. Merci
voilà, on a
c'est pas votre donner... monde.
Non, c'est pas mon monde. Ah, pas le monde de la télévision.
Vous voulez que je vous dise
Non, j'ai rompu avec.
Je pense que le monde de Touche pas au poste est beaucoup plus sain que le monde dans lequel vous vivez quand j'entends vos histoires, parce que nous, on ne connaît pas ces histoires de la maline ou de je ne sais pas quoi, ces conneries. Mais en tout cas, voilà. Merci, Juan Blanco, en tout cas, d'avoir donné votre garçon. Merci.